On se retrouve parfois face à des questions pièges. Dans un entretien d'embauche, par exemple, le recruteur pose une question embarrassante pour tester notre capacité à nous sortir d'affaires. Ou bien dans un cours, un élève ou un étudiant pose une question pour tester le savoir ou les limites du savoir de son professeur. Il y a aussi parfois des questions carrément malveillantes qui visent simplement à nous mettre dans une impasse. Et Jésus s'est retrouvé dans une situation semblable. Alors ce n'était pas l'occasion d'un entretien d'embauche, ni d'un enseignement, mais juste après son coup d'éclat au temple, lorsqu'il a chassé les marchands. Nous allons reprendre, et je vous invite à ouvrir votre Bible, nous allons reprendre notre lecture de l'Évangile selon Marc. Dominique, tu peux enlever le plastique autour de la Bible que tu viens de recevoir, si tu veux, pour prendre l'Évangile de Marc. Et nous allons reprendre la lecture juste avant le texte qui a été prêché il y a 3 semaines par Gordon Margery. Donc nous allons lire dans l'Évangile selon Marc, chapitre 12, les versets 13 à 27. Marc 12, à partir du verset 13. Cependant, ils lui envoyèrent une délégation de pharisiens et de membres du parti d'Hérode pour le prendre au piège de ses propres paroles. Ils vinrent lui dire « Maître, nous savons que tu parles vrai et que tu ne te laisses influencer par personne car tu ne regardes pas la position sociale, mais tu enseignes en toute vérité comment Dieu nous demande de vivre. Dis-nous, avons-nous le droit de payer des impôts à César? Devons-nous le faire ou pas ?» Jésus, sachant combien ils étaient hypocrites, leur répondit « Pourquoi essayez-vous de me prendre au piège? Apportez-moi une pièce d'argent que je la voie. » Ils lui en apportèrent une. Alors il leur demanda « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ?»« De César. » Alors Jésus leur dit « Rendez à César ce qui revient à César et à Dieu ce qui revient à Dieu. » Et ils en restèrent tout déconcertés. Des Sadducéens vinrent aussi le trouver. Ils prétendent que les morts ne ressuscitent pas. Ils lui demandèrent « Maître, dans ses écrits, Moïse nous a laissé ce commandement. Si un homme meurt en laissant une femme, mais sans avoir d'enfant, son frère devra épouser sa veuve et donner une descendance au défunt. Or, il y avait 7 frères. L'aîné s'est marié et il est mort sans laisser de descendant. Le deuxième a épousé la veuve, puis il est décédé lui aussi sans avoir eu de descendant. Le troisième a fait de même, et ainsi de suite. Bref, les 7 sont morts sans laisser de descendance. La femme est restée la dernière, puis elle est décédée. À la résurrection, quand ils ressusciteront tous, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car tous les 7 l'ont eue pour épouse. » Jésus leur dit, « Vous êtes dans l'erreur. Et en voici la raison. Vous ne connaissez pas les Écritures, ni quelle est la puissance de Dieu. En effet, une fois ressuscités, les hommes et les femmes ne se marieront plus. Ils vivront comme les anges qui sont dans le ciel. Quant à la résurrection des morts, n'avez-vous jamais lu dans le livre de Moïse, lorsqu'il est question du buisson ardent, en quels termes Dieu lui a parlé? Il lui a dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Vous êtes complètement dans l'erreur. Jusqu'ici notre lecture pour ce matin. Le premier point de cette prédication, je l'ai intitulé « Faites tout pour la gloire de Dieu ». Ça a été répété plusieurs fois dans la première partie de ce culte. Faites tout pour la gloire de Dieu. Ce texte se compose de 2 parties, 2 délégations différentes qui viennent poser des questions pièges à Jésus. D'abord, il y a ce premier groupe, au verset 13, des pharisiens et des hérodiens. Qui étaient ces personnes? Les pharisiens, c'était le parti religieux conservateur en Israël, traditionnel. Les hérodiens, ou les membres du parti politique d'Hérode, c'est des gens qui étaient dans l'entourage du Hérode Antipas Et normalement, ces deux partis, les pharisiens et les hérodiens, étaient plutôt en désaccord. C'est assez étonnant de les retrouver ensemble ici. Qu'est-ce qui se passe? La Palestine de l'époque était occupée par l'Empire romain. Hérode Antipas avait reçu la gouvernance de la Galilée, c'est-à-dire la région nord de la Palestine. C'est là où Jésus a grandi, à Nazareth. Et Hérode et la Galilée jouissaient d'une certaine indépendance politique par rapport aux Romains. Au contraire, la Judée, au sud, avec Jérusalem et le Temple, était gouvernée par un préfet romain. Si on retrouve ensemble ici les pharisiens et les hérodiens, qui d'habitude ne s'appréciaient pas vraiment, c'est sans doute parce qu'ils avaient une ambition commune, celle de faire remplacer le préfet romain au sud par un membre de la famille d'Hérode et ainsi étendre l'indépendance politique et religieuse d'Israël. Vous voyez l'enjeu ? Alors nous avions déjà rencontré les pharisiens et les hérodiens ensemble dans Marc chapitre 3 au verset 6, lorsque Jésus a guéri un homme pendant le sabbat. Je relis ce verset. Marc 3, verset 6. Aussitôt, donc après avoir guéri l'homme, les pharisiens sortirent de la synagogue et allèrent se concerter avec des membres du parti d'Hérode sur les moyens de faire mourir Jésus. Et donc quand on les retrouve ici au chapitre 12, ils sont dans cet état d'esprit de trouver un moyen de coincer Jésus pour le condamner à mort. C'est ce que nous dit Marc ici, hein, pour prendre Jésus au piège de ses propres paroles, verset 13. Nous savons donc, en tant que lecteurs, que leur démarche n'est pas sincère, mais que c'est un piège. Ils viennent en délégation, ils sont envoyés par ceux qui n'ont pas réussi à coincer Jésus auparavant. Chapitre 12, verset 12. Les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les responsables du peuple cherchaient un moyen d'arrêter Jésus. Mais ils avaient peur des réactions de la foule. Et donc, ils envoient une délégation avec d'autres responsables. Et plusieurs délégations politiques et religieuses défilent pour tenter de faire accuser Jésus. Verset 14. Maître, nous savons que tu parles vrai et que tu ne te laisses pas influencer par quiconque. Car tu ne regardes pas à la position sociale, mais tu enseignes toute vérité, comment Dieu nous demande de vivre. Ça s'appelle brosser quelqu'un dans le sens du poil. Hein. Maintenant qu'on sait qui sont hypocrites, on comprend. Voilà. Et la question qui tue, avons-nous le droit de payer des impôts à César? Devons-nous le faire ou non? Il n'y avait qu'eux pour poser cette question-là. Faut-il payer ses impôts? Si Jésus répond oui, alors on l'accusera d'être un collaborateur de l'occupant romain. Et son autorité auprès du peuple sera discréditée. Si Jésus répond non, alors on l'accusera de vouloir se révolter contre l'empereur. Et les Hérodiens ne manqueront pas de le rapporter au gouverneur pour assurer leurs ambitions politiques. Le piège semble parfait. Jésus connaît leur hypocrisie et il ne manque pas de le dire. Verset 15, Jésus, sachant combien ils étaient hypocrites, leur répondit « Pourquoi essayez-vous de me prendre au piège ?» Et il demande qu'on lui apporte une pièce d'argent. La pièce que Jésus lui demande qu'on lui apporte est sans doute ce qu'on appelait à l'époque un denier, qui correspondait d'ailleurs au montant annuel de l'impôt pour une personne. Sur les deniers, on avait gravé l'effigie, le portrait de l'empereur Tibère, avec cette phrase, écoutez bien, « César Tibère, fils du divin Auguste ». Jésus parle de la pièce et de l'inscription qui est dessus. L'inscription qui était sur les deniers, c'est ça, « César Tibère, fils du divin Auguste ». Auguste, c'était celui qui était empereur à l'époque de la naissance de Jésus. Et à sa mort, en l'an 14, il a été élevé au rang de divinité. On lui avait même dédié un autel religieux de son vivant. Vous voyez ce qui se passe ici? Jésus, qui est le Fils de Dieu, Dieu qui s'est fait homme, a dans sa main une pièce sur laquelle figure le portrait d'un homme qui a été fait Dieu par les hommes. Comment Jésus se sort-il de ce piège? Par cette formule, devenue proverbiale, même encore aujourd'hui, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu, et ça cloue le bec à tout le monde. Pourquoi? Qu'est-ce que Jésus dit, au fond? D'abord, il dit, rendez à César ce qui lui revient. En gros, payez vos impôts. Jésus, on le voit, ne se dérobe pas. Il vient sur le terrain miné de ses adversaires. Et il rappelle à ses adversaires que les autorités humaines ont leur place dans le plan de Dieu. Que Dieu leur délègue une autorité à laquelle nous avons à nous soumettre. C'est d'ailleurs ce que rappellera l'apôtre Paul en Romains chapitre 13. Il dit « Payez vos impôts, car ceux qui les perçoivent sont eux aussi au service de Dieu dans l'exercice de leurs fonctions. » On ne pense pas toujours à ça quand on remplit sa déclaration. Car, voilà. « Rendez donc à chacun ce qui lui est dû, les impôts et les taxes à qui vous les devez, le respect et l'honneur à qui ils reviennent. » Romains 13. Paul rappelle aux chrétiens de Rome, justement, l'enseignement de Jésus, rendez à César ce qui appartient à César. Face à ses opposants, Jésus ajoute une deuxième chose, et à Dieu ce qui revient à Dieu. C'est-à-dire que l'empereur qui apparaît sur cette pièce, sur ce denier, n'est pas Dieu, n'est pas l'autorité ultime. C'est d'abord à Dieu que nous sommes appelés à nous soumettre, au-delà des autorités humaines. Et ce n'est pas parce que les hommes veulent être des dieux qu'ils sont maîtres de tout. Il y a au-dessus des hommes, au-dessus des empereurs, au-dessus des chefs politiques ou religieux, un seul Dieu qui, lui, est maître de toutes choses, y compris de nos vies. Par cette formule, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, Jésus rejette donc le culte qui était voué à l'empereur ou le culte qui est voué à n'importe quel être humain. Jésus rejette les magouilles de ces hommes qui viennent lui tendre un piège et qui comptent plus sur la politique que sur Dieu pour faire aboutir leur projet. Jésus remet chacun à sa place devant Dieu. Et nous? Où en sommes-nous, chacun d'entre nous, devant Dieu ce matin? Car tout ce que nous vivons, ce que nous disons, ce que nous pensons, ce que nous faisons, ce que nous décidons, tout se passe devant Dieu, devant son autorité, sous son regard. Dans notre vie de tous les jours, nous sommes en relation avec différentes figures d'autorité. Nos parents, notre patron, le maire de notre ville, notre gouvernement et notre président de la République, les responsables de l'Église, etc. Mais aucune de ces autorités n'est l'autorité suprême. C'est d'abord devant Dieu que nous vivons. Et c'est lui que nous devons chercher à honorer dans tout ce que nous faisons. C'est ce que Jésus nous rappelle ce matin. L'apôtre Paul le formule de cette manière, et ça a été évoqué dans la première partie du culte. « Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Dominique est passé par le baptême tout à l'heure. Et après être sortie de l'eau, elle va continuer à payer ses impôts. Tu ne t'attendais peut-être pas à entendre ça le jour de ton baptême. Et oui, on ne se fait pas baptiser pour vivre en dehors du monde, en dehors de la société, mais pour être des lumières dans une société qui ne veut pas de l'autorité de Dieu. C'est donc en tant que chrétienne que Dominique va désormais payer ses impôts pour la gloire de Dieu. Et pas seulement pour remplir une obligation fiscale, pour honorer celui à qui elle a décidé de confier sa vie. En une phrase donc, Jésus sort du piège que ces hommes lui avaient tendu et leur cloue le bec. Mais une autre délégation arrive, des Sadducéens. Premier point, c'était « Faites tout pour la gloire de Dieu ». Et le deuxième point, c'est « Faites tout pour la gloire du Dieu des vivants ». Qui étaient les Sadducéens? C'était la classe sociale des aristocrates, si vous voulez, qui était très attachée au temple de Jérusalem et à la lignée des prêtres sadducéens. Ça vient de Tsadok, le grand prêtre qui avait été nommé par le roi Salomon, fils de David, et qui était de la lignée d'Aaron, le tout premier prêtre. Les Sadducéens, c'était en quelque sorte l'élite intellectuelle qui détenait le pouvoir économique et social de la nation juive, qui soutenait le pouvoir en place, un peu comme ces grandes familles ou ces lobbies puissants qui soutiennent financièrement certains partis politiques aujourd'hui. Les Sadducéens étaient comme les pharisiens des conservateurs de la loi de Moïse, mais ils s'opposaient à toutes les règles que les pharisiens avaient ajoutées à la pratique religieuse. Remarquez d'ailleurs qu'ils ne viennent pas avec les pharisiens et les membres du parti d'Hérode. Ils font bande à part. Au verset 18, Marc ajoute un petit commentaire à leur égard. Il dit « Les Sadducéens prétendent que les morts ne ressuscitent pas, ne croient pas à la résurrection. » Ils viennent donc débattre avec Jésus de ce thème en partant d'un texte qu'ils connaissent bien et qui se trouve dans la loi de Moïse. Ils citent Deutéronome 25, verset 5, c'est ce que l'on trouve dans notre verset 19. Maître, dans ses écrits, Moïse nous a laissé ce commandement. Si un homme meurt en laissant une femme sans avoir eu d'enfant, son frère devra épouser sa veuve et donner une descendance au défunt. Et puis il raconte cette histoire, l'histoire de cette femme qui s'est retrouvée veuve à 7 reprises. Et donc dans leur logique, ce témoignage, cette femme qui a eu 7 maris, et le texte de Deutéronome, viennent en contradiction avec l'idée de résurrection. Comment? Eh bien, si les hommes et les femmes reviennent à la vie après la mort, de qui cette femme sera-t-elle l'épouse sans se retrouver en situation d'adultère vis-à-vis des 6 autres? C'est ça la question. Puisque d'un côté la loi condamne l'adultère, et d'un autre côté la loi demande d'épouser la veuve de son frère. Vous comprenez le raisonnement? Selon eux, l'idée de résurrection contredit le commandement de l'adultère dans la situation dont il parle à Jésus. Bon, les théologiens se prennent un peu trop la tête des fois. Qu'est-ce que Jésus leur répond? De nouveau, Jésus vient sur le terrain miné de ses interlocuteurs pour effectuer un déminage. La première chose qu'il fait, c'est de les remettre à leur place. Verset 24, « Vous êtes dans l'erreur. » Et en voici la raison, « Vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » En gros, vous vous prenez pour l'élite intellectuelle et religieuse de notre peuple et vous ne comprenez même pas ce que vous lisez dans la Bible. Bon, ça c'est fait. Dire à des intellos qu'ils n'ont rien compris, ça picote un peu quand même. Et Jésus le dit 2 fois en plus. Vous avez peut-être remarqué, au début et à la fin de son intervention, « Vous êtes dans l'erreur », ça revient 2 fois. Ça nous rappelle que Jésus n'est pas toujours tendre avec ses interlocuteurs, surtout lorsqu'il cherche à le coincer ou à se moquer de lui. Que dit Jésus? Verset 25. « Une fois ressuscités, les hommes et les femmes ne se marieront plus, ils vivront comme les anges qui sont dans le ciel. » Jésus dit ici qu'après la mort, nous ne serons plus dans les mêmes conditions sociales que celles que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous nous marions et nous avons des enfants, mais dans le monde d'après, pas celui d'après Covid, mais le vrai monde d'après, nous vivrons une nouvelle réalité sociale. Jésus dit « comme les anges dans le ciel ». Difficile de savoir trop ce que ça veut dire. Je le comprends de la manière suivante, les anges sont aussi des créatures de Dieu, comme les êtres humains, mais ont une existence différente de la nôtre. Nous vivrons donc une réalité différente. Entre parenthèses, en plus de ne pas croire à la résurrection, les Sadducéens ne croyaient pas non plus aux anges. Jésus leur passe donc ici une deuxième couche de « vous n'avez rien compris » en leur disant « si, si, les anges existent ». Je ferme la parenthèse. À quoi correspondra la nouvelle réalité de notre vie ressuscitée? Nous ne savons pas exactement. Par sa propre résurrection, Jésus nous donne quand même plusieurs preuves. La première, c'est que c'est vrai, la résurrection. Ça existe. Jésus est ressuscité. Jésus est le pionnier, le premier homme ressuscité. Son témoignage personnel fonde donc notre espérance à nous d'être un jour nous aussi ressuscités avec lui. Jésus nous dit une deuxième chose ici. Il nous dit qu'il y aura à la fois une rupture radicale et aussi une continuité par rapport à notre expérience d'aujourd'hui et au regard de celle que nous vivrons à notre résurrection. Par exemple, ceux qui ont fréquenté Jésus avant sa mort ne l'ont pas reconnu tout de suite après sa résurrection. Changement radical. Et en même temps, le corps ressuscité de Jésus avait conservé les marques des clous de sa crucifixion. Continuité donc entre le monde d'avant et le monde d'après. Le mariage, d'après ce que Jésus enseigne ici, fait partie de ces expériences que nous vivons aujourd'hui, mais que nous ne vivrons plus après notre résurrection. Du coup, tout le raisonnement des Sadducéens s'écroule. L'histoire de la femme et de ses sept maris, ça tombe à l'eau, hein, puisqu'ils ne seront plus en relation conjugale après la résurrection. Et Jésus insiste sur la réalité, sur la vérité de la résurrection. Versets 26 et 27. Quant à la résurrection des morts, n'avez-vous jamais lu dans le livre de Moïse, lorsqu'il est question du buisson ardent, en quels termes Dieu lui a parlé? Il lui a dit « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob ». Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Les Sadducéens connaissaient beaucoup de choses sur Dieu. Et pourtant, ils ne connaissaient pas Dieu. Le Dieu de la vie. N'avez-vous jamais lu? Jésus renvoie les Sadducéens à leurs études de théologie. Vous avez étudié et vous n'avez rien compris. Il les rejoint donc sur les bancs de la fac pour revisiter avec eux les textes de la loi. Oui, il y a Deutéronome 25, mais il y a aussi Exode chapitre 3, ce moment où Dieu se révèle à Moïse dans le buisson ardent. Dieu se présente à Moïse comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est-à-dire les patriarches du peuple juif. On remonte ici aux origines du peuple d'Israël. Or, ces gens sont morts. Comment Dieu donc peut-il prétendre être leur Dieu? C'est bien qu'ils sont vivants. Ce texte et bien d'autres dans la Bible impliquent avec certitude que la mort n'est pas la fin de tout, mais que la vie continue après la mort. Dieu est le Dieu de la vie et des vivants, pas des morts. La mort est le dernier ennemi qui sera vaincu, nous dit Paul dans 1 Corinthiens chapitre 15. Si vous croyez aujourd'hui que votre vie s'arrêtera définitivement dans quelques années ou quelques dizaines d'années, vous êtes vous aussi dans l'erreur. Vous n'avez pas encore compris que Dieu est capable de vous ramener de la mort à la vie. Vous n'avez pas confiance en sa puissance et vous avez déjà accepté la victoire de la mort dans votre vie. Ce n'est pas comme cela que Dieu conçoit la vie et la mort. La mort va être vaincue. Jésus en a anéanti le pouvoir par sa mort à la croix. Et la preuve de sa victoire sur la mort, c'est qu'il est ressuscité. Dieu l'a ramené de la mort à la vie. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui est corrompu par le péché et par la mort. Ce n'est pas une situation normale. Un jour, Dieu va mettre définitivement un terme à cette malédiction qui pèse sur nous. La mort sera jetée dans l'étang de feu. Apocalypse chapitre 20, verset 14. Si vous ne croyez pas au monde d'après, c'est-à-dire celui de notre humanité ressuscitée, vous n'avez pas encore compris ce que dit la Bible. Et Jésus vous invite ce matin à vous réveiller et à entendre ces paroles. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. On peut connaître beaucoup de choses sur Dieu et pourtant passer à côté d'une relation vivante avec lui. Il est encore temps de changer en recevant l'espérance que Dieu veut vous donner en Jésus-Christ. C'est une véritable espérance, pas juste un vague espoir de bonheur. Et pour nous qui avons déjà reçu et accepté cette espérance, quel encouragement! Quel encouragement! Nous sommes déjà entrés dans une vie nouvelle, bien que les circonstances et les difficultés de notre vie actuelle soient encore une réalité. Dominique, tu témoignes aujourd'hui par ton baptême que tu entres dans cette nouvelle vie. Accroche-toi de toutes tes forces à Jésus qui est déjà ressuscité et qui un jour te ramènera de la mort à la vie. Que ce jour de baptême soit pour toi un point de repère pour le restant de ta vie, ce jour où tu as dit publiquement que tu veux t'engager à vivre pour le Dieu des vivants. Tu fais le bon choix. Ne t'en détourne pas. Puissions-nous, nous aussi, vivre cette nouvelle semaine sous le regard du Dieu des vivants. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ta parole et pour cette journée, pour ce baptême qui nous donne l'occasion de nous réjouir à nouveau de ton amour. Merci parce que tu nous as rejoints en Jésus. Merci parce que tu es le Dieu de la vie. Tu connais notre condition humaine, tu connais nos fautes, tu connais aussi nos souffrances, les circonstances, les difficultés par lesquelles nous pouvons passer. Par moments ou régulièrement, peut-être nous sommes en ce moment dans une période particulièrement compliquée, difficile à vivre. Seigneur, viens à notre secours, viens nous tendre la main. Aide-nous à la saisir, à saisir la main de Jésus ressuscité. Jésus qui est la preuve que tu es le Dieu vivant et le Dieu des vivants. Seigneur, que nous puissions ce matin et tout au long de cette semaine nous rappeler ces paroles comme un encouragement à marcher sous ton regard. Amen.